Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Hello. Allez, il est tout pile 9h40 sur France Inter. Une nouvelle semaine dans 100M, c'est parti.
Vous êtes en direct, allez-y.
L'Instant M ne sait plus où donner de la tête cette saison tant il naît de nouveaux médias. Ça déferle toutes les semaines en kiosque et sur vos écrans. Ce matin, je vous parle d'un beau et bon magazine culturel, Koï, et d'un podcast radio riche et bien ficelé, Chip. Chip et Koï sont nés d'une démarche commune, celle de jeunes journalistes qui se sentent et se disent invisibles dans les médias, n'y trouvant ni leur visage, ni leur voix, ni leur histoire, ni leur centre d'intérêt. Parce qu'un Français, oui, un Français d'origine asiatique, n'a pas la même culture qu'un Chinois ou qu'un Vietnamien, parce qu'un ado noir en France n'a pas la même culture qu'un Afro-Américain. Les uns et les autres avaient envie de se dire, de se montrer, de militer et surtout de partager.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour à tous les deux, et par qui je commence? Par Koï peut-être. Bonjour Julie Amaïd.
Bonjour.
Voilà, et à vos côtés François Aulac, bonjour.
Bonjour.
Alors, Julie Amaïd a créé Koï, troisième numéro déjà de cette belle revue culturelle qui est en kiosque, ça s'appelle c'est du papier, c'est de l'encre qui tache, c'est beau, il y a de la photo, etc. Que c'est vieux comme média, et pourtant que ça vous plaît. Quel âge avez-vous Julie?
Que c'est beau surtout,
que
j'ai
c'est
27
beau.
Ans.
Voilà, 27 ans, et François Aulac à vos côtés, qui est par ailleurs journaliste chez Loopsider, qui est là aussi. Aussi un nouveau média numérique. On vous en parlera une autre fois. On a commencé d'ailleurs dans l'Instant M à vous parler de Loopsider. François Aulac, vous avez créé Chip. C'est un podcast radio qui est hébergé sur la plateforme d'Arte Radio.
Tout à fait.
Voilà. Vous
le
l'avez...
Chip.
Le Chip. Vous l'avez créé avec Mélanie Wanga et Kevin Donat. Donc vous êtes trois autour du micro. On peut dire un mot d'Arte Radio parce que globalement, c'est quand même vraiment remarquable. Ils ont eu du pif, ils ont eu du nez, ils ont eu de l'avance. C'est 2000 reportages et fictions qui sont des créations originales et qui sont à disposition de chacun sur le site d'Arte, qu'on peut aller piocher et se coller dans les oreilles. Julie Amaïd, peut-être un mot de votre histoire à vous, qui portez aujourd'hui ce magazine au nom de la communauté asiatique, des communautés asiatiques d'ailleurs. On va parler du pluriel et de ses complexités. Oui. Votre histoire à vous, Julie.
Moi, je suis eurasienne d'origine vietnamienne. Mm-hmm. Donc, j'ai suivi un cursus normal, traditionnel en journalisme. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des sujets qui parlent des communautés asiatiques en France sont assez peu nombreux dans les médias traditionnels, les médias qui existaient.
Sauf, c'était la première ligne de votre premier édito. Lorsque c'est le nouvel an chinois,
voilà. Hein,
ça on n'y coupe pas, d'accord.
Donc ça, c'est le mois prochain, dans
voilà.
Deux semaines.
Et pour parler de prostitution.
De prostitution, des appartements raviolis ou sinon d'agression, malheureusement, comme il y a un peu plus d'un an. Et justement, l'idée est venue il y a un petit peu plus d'un an, après l'agression de Zhang Shaolin à Aubervilliers et également la manifestation qui a réuni des dizaines de milliers de personnes d'origine asiatique ou non à Paris, pour se faire entendre, pour montrer que ces communautés-là existent en France et font partie de la population.
Voilà, pour briser l'invisibilité. François Aulac, vous avez 30 ans. C'est ça, c'est ce que je vous disais avant l'émission. La courbe s'est inversée. Maintenant, je suis toujours plus vieille que mes invités. Quand il s'agit de créer des médias. Le chip, ça veut dire quoi? C'est quoi le chip?
Alors le chip, c'est ce bruit de bouche qui est commun à toute la diaspora afro-descendante. Mm-hmm. Ça sonne comme ça un peu... Ouais. C'est quand on veut marquer son scepticisme, sa désapprobation, voire son mépris.
Mm-hmm. Il y a des collèges où ça rend les profs dingues, manifestement.
Tout à fait, on a même parlé de l'interdire dans les collèges de France, j'avais suivi ça en effet.
Voilà, exactement. Et Koï, qu'est-ce que ça veut dire?
Koï, c'est la carpe en japonais.
C'est la carpe qui remonte le courant. Un petit mot d'actu des médias et on y vient à tous les deux. Alors ce sera très rapide et ce sera en Angleterre. La BBC annonce que 6 présentateurs masculins acceptent de leur plein gré de réduire leur rémunération. Des journalistes et animateurs d'émissions qui gagnent tous entre 200 000 et 750 000 livres par an. Décision symbolique, certes, mais quand même. Après la démission de Carrie Grace, c'était une de leurs consoeurs, rédactrice en chef, début janvier. Elle a publié une lettre, souvenez-vous, on vous en avait parlé, où elle affirmait qu'à emploi égal et postes équivalents, les hommes sont 50% mieux payés à la BBC. Voilà, donc je suis en compagnie de François Aulac et de Julie Amaïd pour parler de Koï et de Chip. Un petit mot sur le clip des Asiatiques de France. On était en mars 2017, une vidéo réalisée par une journaliste. Une foule de personnalités témoignent d'ailleurs qu'on connaît, des chefs étoilés, des humoristes, des chanteuses très célèbres.
Tran, c'est marrant. Mon docteur s'appelle Tran, tu le connais?
Bah alors, Bruce Lee.
Vous parlez super bien français.
Ce qu'il y a de bien avec vous, les Asiatiques, c'est que franchement, vous êtes discrets, travailleurs, vous faites pas de vagues.
Invisible.
Chut. Travailleur.
Tu dois bien savoir masser.
Sumo, Jackie Chan, Nyakwe, Anouashi.
Si tu veux réussir, faut que tu changes ton nom.
Nihao, nihao.
Shintok.
Voilà, Julie Hamaïd, vous nous avez parlé de ce mouvement qui est né spontanément après la mort de Zhang Zhaolin, de ces manifestations. Vous dédiez une des dernières pages du journal à ce que vous appelez carton jaune et vous la confiez alors à un historien, à une blogueuse, à un dramaturge. En général, c'est des très beaux textes, denses, riches, bien écrits. Je cite Jean-Baptiste Fou, qui est metteur en scène de théâtre et qui dit « Un homme est mort et dans les médias, c'était... » un Chinois. C'est-à-dire qu'il a fallu une manif pour qu'il retrouve une identité, qu'il retrouve une histoire. Et d'ailleurs, en général, on dit en général, on dit les Chinois, la communauté chinoise, comme si la France ignorait d'abord la variété des provenances de chacun, mais surtout comme si les Chinois, c'était les autres. Alors que là, on parle tout simplement de citoyens français. Et créer cette altérité, ça crée le fossé, justement, Julie Hamaïd.
Exactement. Ce que disait Jean-Baptiste Fou dans sa tribune, c'est que ça niait un petit peu l'humanité de ces personnes-là, les Chinois, déjà, c'est un peu débile finalement de tout mettre dans un même sac, de dire les Chinois dès que c'est une personne qui a les yeux bridés et qui est brune avec ce type de physique. Donc c'était pour redonner un petit peu du sens à l'appellation chinois, finalement, ouais. Dire que c'est les Asiatiques de France et qu'en plus ce sont des Français. La plupart sont Français ou même nés en France et il faut pas oublier que voilà, ils font partie de notre population et c'est pas juste les autres. Eux là-bas, ces personnes qu'on connaît pas et qui doivent avoir ce type de comportement.
Alors justement, vous mettez le vraiment un point d'honneur à montrer la variété, la complexité, les cultures asiatiques en Asie et en France. Et puis vous mettez aussi un point d'honneur à donner la parole à votre génération, c'est-à-dire celle que vous appelez la génération trait d'union, Julie Hamaïd.
Oui, c'est cette génération qui est française, née en France, grandie en France, un petit peu entre deux cultures, la culture française traditionnelle et puis la culture de ses parents teintée d'Asie. Mmh. Et cette génération-là, en fait, est pleine de ressources, fait plein de choses. On va la retrouver, par exemple, il y a Caroline Guéla Nguyen qui vient de faire une pièce de théâtre qui s'appelle Saigon, qui fait un tabac au Théâtre de l'Odéon, qui a fait un tabac également au Festival d'Avignon. Il va y avoir aussi la blogueuse Grace Lee qui est en train de faire une web-série qui est absolument géniale. Il y a plein de personnes comme ça qui ont des choses à dire, qui ont envie de parler de cette double culture et pour le moment, on n'a pas beaucoup écouté.
Non, pas beaucoup écouté, pas beaucoup vu. Ils racontent d'ailleurs le socle commun de leur histoire, justement, par rapport à l'histoire de leurs parents. Je remarque que vos pages conso, parce que c'est un magazine extrêmement varié, on parle cuisine, gastronomie, voyage, sujet de société, tout ça. Vos pages conso s'appellent « Yellow is the new black », Julie Hamaïd. Pourquoi est-ce que vos pages conso s'appellent « Yellow in the new black » où on parle mode, parfum, design, etc., shopping?
C'est une expression qu'on a piqué un petit peu au magazine féminin qui était souvent « Blue is the new black »,« Grey is the new black », dès qu'il y a une nouvelle tendance dans les pages des féminins. Et donc, nous, on s'est dit « Yellow is the new black » parce que il y a des marques d'origine asiatique ou des créateurs d'origine asiatique qui font des choses qu'on trouve en France et qui sont sympas. Et voilà, on avait envie de montrer un petit peu ces produits-là. Ça peut être du chocolat qui vient du Vietnam, ça peut être des marques japonaises qui se développent en France et qui plaisent énormément, qu'on va retrouver dans plein de grands magasins. C'était le moment de les mettre un peu en avant.
François Houlac, je fais écouter juste la petite intro de Chip, juste pour qu'on vous ait dans l'oreille.
Un petit bruit buccal.
Rendez-nous les chips.
Subtilement dosé. Le chip est en danger.
Le chip.
Le chip. Vous écoutez.
Le chip. Vous écoutez.
Le podcast afro d'Arte Radio.
Yellow is the new black, ça veut dire quoi? Ça veut dire que black, c'est classe. Ça veut dire que black, c'est chic. Ça veut dire que black, ça sonne bien. Parce que vous, François Houlac, avant de créer le chip, vous aviez une émission qui s'intitulait Noir is the new black.
Tout à fait. Tout
alors
à fait.
Pourquoi? Parce que black, y en a marre de black?
Oui, il y en a marre de black. Oui, il y en a un petit peu marre de black. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez récurrent dans la communauté noire en France. Beaucoup de gens ont des difficultés à dire le mot noir et à appeler les gens noirs de peau noirs. Et selon nous, selon moi, c'est révélateur d'une sorte de malaise par rapport, un malaise de la France par rapport à ses citoyens afro-descendants.
D'ailleurs, vu les réactions sur Twitter quand j'ai annoncé l'émission, hein, en disant que des Noirs se cherchaient un espace médiatique et le revendiquaient, tout ça, j'ai eu vraiment l'impression d'utiliser un gros mot. Et quand j'ai vu un confrère journaliste de TF1, Harry Roselmack, interviewé dans une bonne émission ce week-end sur Canal+, on a passé son temps à dire un journaliste de couleur.
Ouais, parce que
il y a quelque chose qui passe pas.
On a du mal en France, j'ai l'impression parfois à parler du fait d'être noir de manière très frontale. Mm-hmm. Et le fait justement d'utiliser le mot black, c'est l'une de ces techniques d'évitement que nous on veut justement éviter.
Éviter, non, à dire les choses, les nommer, les affronter. Et voilà. En même temps, dans le vocabulaire que vous utilisez dans le chip, vous parlez d'afro-descendants, vous parlez de gens racisés, de femmes racisées, de noirs racisés, etc. Est-ce que vous utilisez pas des termes qui, pour le coup, nous viennent tout droit des pays anglo-saxons, qui s'utilisent très très peu en réalité en France ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'américanisation de votre manière de faire, François Black ?
Totalement.
Totalement ? Revendiqué ?
Revendiqué, oui, parce que on nous reproche souvent d'utiliser beaucoup d'anglicisme,
ouais.
et de s'appuyer sur beaucoup de pop culture américaine.
Mm-hmm.
Et c'est quelque chose qu'on revendique parce que beaucoup de ce vocabulaire et beaucoup de ces outils en fait de pensée, beaucoup de ces mots véhiculaires nous viennent de la pensée anglo-saxonne. Ce sont des tout ce qui est de type African Studies, Gender Studies, c'est des choses qui sont très avancées et des débats qui sont très vivaces outre-Atlantique et outre-Manche. Et donc on emprunte ce vocabulaire et on le traduit quand on peut.
Et en même temps, quand vous avez commencé justement à créer ces médias entrepreneuriaux, etc., vous les avez fait avec une plateforme qui s'appelle AfroStream, dont on avait reçu le créateur ici dans l'instant même, et qui disait, mais vous vous rendez compte de ce que c'est que d'être un ado en France, d'être un ado noir, et de ne se reconnaître nulle part ailleurs que dans des séries américaines ou dans la pop culture américaine, musique, télé, cinoche, etc.
Ouais, c'est quelque chose dont on parle très souvent dans l'émission, c'est le problème de la représentation. Y a un slogan, encore une fois, américain qui dit « Representation matters », la représentativité, ça compte. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont l'impression que le fait qu'il y ait plus d'acteurs noirs dans les séries, plus de personnes à la radio ou ailleurs, c'est une sorte de sujet un peu secondaire. Mais non, ça compte, parce que la culture est une représentation du monde, est un reflet du monde. Et donc on pense que parler de pop culture et parler de culture noire, pousser, promouvoir ce genre de récit alternatif, c'est aussi une manière de changer les façons de penser.
D'ailleurs, vous le faites remarquer hein, dans Koï, la télé-réalité promeut la diversité des visages, parce qu'on a dit beaucoup, beaucoup de mal de la télé-réalité, mais en réalité, c'est sûrement là où la diversité s'affiche le mieux. Et nous, on en a fait des émissions dans l'instant même, le boulot d'une maison de production comme Shine et The Voice. Mm-hmm. On n'est pas forcément dans la télé-réalité, peut-être plus dans le concours de talent. Mais là, en tout cas, on voit des gens de tous les âges, de toutes les tailles, de tous les poids, ça compte aussi à la télévision, de toutes les couleurs de peau, et vous le pointez.
Oui, exactement. Ben, on a regardé tout simplement les chiffres du CSA. Hein. Mmh. Donc, on voyait des personnes de couleur, ou dans le sport, ou sinon dans les émissions de divertissement, dont la télé-réalité. Et c'est vrai que ça montre finalement les Français. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, les Français? Ben voilà, c'est ceux qui font finalement les castings de The Voice ou d'autres émissions.
Je vous fais écouter un petit extrait du dernier spectacle de Gad Elmaleh où Kev Adams était venu lui rendre visite.
Bonjour, grand maître, et bienvenue dans ce temple. Vous allez m'apprendre tout ce que je dois avoir.
Non, je te jure, je suis en train de niquer 20 ans de carrière, là, je suis en train de...
Les gens, ils aiment exotique. Regarde, ils voyagent, mais ils restent. Ils attendent.
L'accent chinois mal fait dans le domaine de l'humour, c'est le pire, quoi. C'est le dernier truc qu'on peut... Ok, vas-y, je te fais plaisir, je m'en fous.
Tu fais accent chinois ?
Non, je sais pas faire l'accent chinois, mais je vais te faire... Ok, vas-y, allez.
Alors évidemment, tout le monde leur est tombé dessus le lendemain, réaction extrêmement violente. En même temps, il y a tout dans la discussion entre les deux, c'est-à-dire l'accent asiatique, c'est ce qu'il y a de pire dans un sketch comique, et aujourd'hui, ça vous nique une carrière, comme dirait Gad Elmaleh. Julie Hamaïd, vous les tracez au fur et à mesure de Koï dans des interviews sur, par exemple, le marketing ethnique avec Monoprix qui mélange la Corée et le Japon parce qu'ils font pas la différence.
C'est loin.
Avec Carrefour qui vous dit plus on est de fous, plus on rit, R-I-Z. Donc vous les pointez la persistance de ces stéréotypes et de ces bonnes blagues qui reviennent sans cesse.
Oui, c'est mes intervenants qui le pointent finalement. Là, dans une interview, dans une prochaine interview avec Frédéric Chaud, on va revenir justement sur ce sketch de
Frédéric Chaud, c'est un humoriste et acteur de cinéma.
Exactement. Voilà, c'est eux finalement qui vont prendre la parole et nous dire un petit peu en quoi ça les a dérangés. ces stéréotypes ou ces sketchs un petit peu maladroits. Quoi.
François Aulac.
Je voulais raconter une petite anecdote,
allez-y.
Justement. Samedi, j'ai voulu acheter Coy pour le feuilleter, parce que je l'avais aperçu en kiosque, mais j'avais pas eu l'occasion de le lire. Mmh. Et donc, je me rends dans une papeterie près de la gare de l'Est, et je demande donc Coy, le magazine, un magazine société français sur les cultures asiatiques. Et le vendeur me dit, allez voir peut-être du rayon, du côté du rayon voyage.
C'est ça.
Et donc, c'est assez symptomatique, voyage
ou bouffe. Vous avez eu aussi un débat assez long et assez nourri parmi vos plateaux, François Aulac, dans le chip, sur la très 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 faible représentation de la communauté noire dans les rédactions françaises.
Oui.
C'est-à-dire le très très faible ratio de journalistes noirs parmi les signatures radio, télé et presse écrite.
Oui, tout à fait. C'est un sujet qui nous touche particulièrement, déjà parce qu'on est une forme de média,
mmh.
et ensuite parce que personnellement je suis journaliste de formation, mmh. ma collègue Mélanie Manga est également journaliste de formation, et c'est quelque chose que j'ai très vite constaté. Il y a un phénomène de forte reproduction sociale,
mm-hmm.
parmi les médias et parmi les écoles de journalisme. Et donc dès l'école, j'ai remarqué que la proportion de journalistes de couleur était très faible. Et donc finalement, on se retrouve avec des grands médias, des médias traditionnels, où tous les journalistes sont issus du même milieu social, du même milieu culturel, ont le même background finalement, et donc finalement ont les mêmes biais, les mêmes tropismes, et donc vont avoir la même curiosité pour les mêmes sujets. Et c'est comme ça finalement que le manque de curiosité
d'ailleurs,
pour des sujets.
D'ailleurs, vous avez une invitée journaliste qui vous raconte un stage manifestement à la rédaction du Figaro, où un journaliste culture a écrit à propos du film de Steve McQueen. Donc Steve McQueen n'est pas qu'un acteur américain, il y a aussi un grand réalisateur oscarisé britannique qui s'appelle Steve McQueen, et parlant d'un réalisateur d'origine noire. Et ouais. Ce qui est quand même une absurdité totale d'écrire ça. Mais en fait, ça n'a choqué personne à tous les étages du journal et de la relecture.
C'est ça, parce que finalement, tout le monde est issu du même moule, et donc ça passe comme ça.
Je vous fais écouter alors un petit montage qu'on a pris sur le média pour lequel vous travaillez. Par ailleurs, Loopsider, ça s'est passé lors de la Nuit des Idées. C'est une journaliste qui interviewe Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une star planétaire de la littérature.
Est-ce que vos livres sont lus au Nigeria ?
Tout à fait, ça va peut-être vous choquer, mais oui.
Est-ce qu'il y a des librairies au Nigeria ?
Je vois, mais c'est précisément parce que ça vous fait réagir comme ça que je pose la question, parce que cette question-là va amener la suivante.
Quand on parle du Nigeria, pardon, mais en France, on parle très peu, sûrement pas assez, d'un pays comme le Nigeria. Quand on parle du Nigeria, on parle de Boko Haram. D'où cette question, Chimamanda ?
Je pense que cela reflète assez mal sur les Français que vous ayez à me poser une telle question. Je suis vraiment honnête avec vous. Cela donne une mauvaise image des Français.
Voilà, qui a également bien tourné sur les réseaux sociaux. La journaliste, on peut la nommer, c'est Caroline Brouet. C'est une consoeur brillante de France Culture. Je pense qu'elle a surtout été très maladroite. Elle a finalement sûrement voulu faire de la provoque pour faire réagir. Sauf qu'évidemment, ça a été très mal perçu et Chimamanda Adichie l'a très très mal pris. Vous l'avez vu comment, vous, cet échange ?
Je l'ai vu comme assez révélateur, comme assez symptomatique de la façon dont parfois les cultures et les pays afrodescendants sont traités. On peut penser également à la citation de Trump qui disait il y a pas si longtemps que ça que les pays caribéens comme Haïti ou certains pays africains sont des comme il a dit déjà des shithole countries, des pays de merde, mm-hmm. finalement. Donc voilà, ça n'est jamais qu'une occurrence de plus de ce biais qu'on a parfois dans nos pays occidentaux.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Donc Coy est en kiosque, je le répète, c'est du papier et du beau papier. Beaucoup, beaucoup de sujets, c'est riche et c'est varié. Et Chip, c'est le Chip. Le Chip, c'est sur Arte Radio. Merci à tous les deux, c'est la fin de l'Instant M. Bonjour Ali.
Journaliste de couleur.
Ah voilà. Non, on fait de la radio. Bonjour Ali Réveillé, ça va ?
Bonjour Céline Devillers.
Ça s'en va et ça revient, c'est un peu le sujet du jour aujourd'hui.
Ouais, comment soigner les douleurs chroniques ?
Ouais.
On va essayer de s'inspirer notamment des fakirs.
De couleur.
on va notamment s'inspirer des fakirs. On va essayer de s'inspirer
des fakirs.
Oui, parce qu'ils ont des ressources exceptionnelles pour gérer la douleur. Voilà, il y a près d'un cinquième de la population qui souffre de douleurs chroniques. 01 45 24 7000.
Ali Rebeyi va marcher sur du verre.